Chapitre 16. Édouard ferma les yeux, poussa un long soupir de soulagement, ses muscles se relâchèrent lentement. Il retint de justesse la seringue qui allait lui échapper et la posa près de lui. Ses mains tremblaient encore, mais déjà sa poitrine oppressée commençait à se libérer de l'étau. Après les injections, il restait un long moment étendu, vidé. Le sommeil venait rarement. C'était un état flottant. Sa fébrilité refluait lentement, comme un bateau qui s'éloigne. Il n'avait jamais été curieux des choses de la mer. Les paquebots ne le faisaient pas rêver. Mais les ampoules du bonheur devaient porter cela en elles. Les images qu'elles lui procuraient avaient souvent une tonalité maritime qu'il ne s'expliquait pas. Elles étaient peut-être comme les lampes à huile ou les flacons d'élixir à vous aspirer dans leur monde. Autant la seringue et l'aiguille n'étaient pour lui que des instruments chirurgicaux, un mal nécessaire, autant les ampoules, elles, étaient vivantes. Il les regardait en transparence, le bras tendu vers la fenêtre. C'est fou ce qu'on pouvait voir là-dedans. Les boules de cristal n'avaient pas de vertu supérieure ni d'imagination plus fertile. Il y puisait beaucoup. Repos, calme, consolation. Une grande partie de ses journées se passait dans cet état incertain, vaporeux, où le temps n'avait plus d'épaisseur. Seul, il aurait bien enchaîné les injections pour rester ainsi, flottant, comme s'il faisait la planche sur une mer d'huile. Toujours les images maritimes, elles devaient venir de loin, du liquide prénatal certainement. Mais Albert était un homme très avisé, il ne lui laissait chaque jour que la dose strictement nécessaire, et il notait tout, puis le soir, à son retour, il récitait le calendrier, les quantités, tournant les pages à la façon d'un maître d'école. Édouard le laissait faire, comme Louise, pour les masques, somme toute, on s'occupait de lui. Édouard pensait peu à sa famille, mais à Madeleine plus souvent qu'aux autres. Il conservait beaucoup de souvenirs d'elle, les éclats de rire étouffés, les sourires aux portes, ses phalanges repliées frottant son crâne, leur complicité. Il ressentait de la peine pour elle. En apprenant sa mort, elle avait dû avoir du chagrin, comme toutes les femmes qui avaient perdu quelqu'un. Après quoi, le temps, ce grand médecin, un deuil, on s'y fait à la longue. Rien de comparable avec la tête d'Édouard dans la glace. Pour lui, la mort était là, en permanence, à raviver ses plaies. Et, à part Madeleine, qui restait-il? Quelques camarades et parmi eux, combien d'encore vivants? Même lui, Édouard, le chanceux, était mort dans cette guerre, alors vous parlez les autres. Il y avait aussi son père, mais rien à en dire de celui-là. Il devait vaquer à ses affaires, cassant et lugubre. L'annonce de la mort de son fils n'avait pas dû arrêter sa marche très longtemps. Il était simplement monté en voiture, disant à Ernest « À la bourse !» parce qu'il y avait des décisions à prendre, ou « Au jockey !» parce qu'on préparait les élections. Édouard ne sortait jamais, passait tout son temps dans l'appartement, dans cette misère. Enfin non, pas vraiment. La misère devait être pire, non. Ce qui était démoralisant, c'était cette médiocrité, cette pénurie de vivre sans moyens. « On s'habitue à tout, disait-on. » Eh ben non, justement. Édouard, lui, ne s'habituait pas. Quand il avait suffisamment d'énergie, il se plantait devant le miroir, regardait sa tête. Non, rien ne s'atténuait. Jamais il ne parviendrait à trouver un semblant d'humain dans cette gorge à ciel ouvert, privée de mâchoire, de langue, ses dents énormes. Les chairs s'étaient raffermies, les plaies cautérisées, mais la violence de cette béance restait intacte. C'est à cela que devaient servir les greffes, non pas à diminuer votre laideur, mais à vous conduire à la résignation. Pour la misère, c'était pareil. Il était né dans un milieu luxueux, on ne comptait pas l'argent parce que l'argent ne comptait pas. Il n'avait jamais été un garçon dépensier, et pourtant, dans les institutions, parmi ses camarades, il en avait vu des adolescents dispendieux, des flambeurs. Mais même sans être dépensier, le monde autour de lui avait toujours été vaste, facile, aisé, les chambres grandes, les sièges profonds, les repas généreux, les vêtements chers. Alors, maintenant, cette pièce au parquet mal jointé, ses fenêtres grises, le charbon chiche, le vin médiocre, tout dans cette vie était moche. Leur économie entière reposait sur Albert. On ne pouvait rien lui reprocher. Il se coupait en quatre pour rapporter des ampoules. On ne savait pas comment il s'y prenait. Il devait en passer des sous là-dedans. Ah, c'était vraiment un bon camarade. Ça vous fendait le cœur, parfois, ce dévouement. Et avec ça, jamais une plainte ni une critique, toujours faisant mine d'être gai, mais au fond inquiet, bien sûr. Il était impossible d'imaginer ce qu'ils allaient devenir tous les deux. Toutefois, si ça continuait comme ça, l'avenir n'avait rien de reluisant. Édouard était un poids mort, mais il ne craignait pas l'avenir. Sa vie s'était effondrée d'un coup, sur un coup de dé. La chute avait tout emporté, même la peur. La seule chose réellement accablante, c'était la tristesse. Quoique, depuis quelque temps, il y ait du mieux. La petite Louise l'égayait avec ses histoires de masques, une industrieuse elle aussi, comme Albert, une fourmi qui lui rapportait des journaux de province. Son mieux-être, qu'il se gardait bien de montrer, trop fragile, tenait justement aux journaux, aux idées que ça lui avait données. Il avait senti, au fil des jours, une excitation remonter d'une profondeur folle, et plus il y pensait, plus il retrouvait les états d'euphorie de sa jeunesse quand il préparait un sale coup, une caricature, un déguisement, une provocation. À présent, rien ne pouvait plus avoir le caractère jubilatoire, explosif de son adolescence, mais il le ressentait dans le fond de son ventre. Quelque chose revenait. Il osait à peine prononcer le mot dans sa tête, de la joie. Une joie furtive, prudente, discontinue. Quand il parvenait à aligner ses idées, à peu près dans le bon ordre, il lui arrivait, c'était incroyable, d'oublier l'Édouard de maintenant, de redevenir celui d'avant la guerre. Il se leva enfin, reprit sa respiration et son équilibre. Après avoir désinfecté la grande aiguille, il rangea soigneusement sa seringue dans la petite boîte en fer blanc qu'il referma et qu'il remit sur l'étagère. Il attrapa une chaise, la déplaça, les yeux en l'air pour trouver l'emplacement, monta dessus avec un peu de difficulté à cause de sa jambe raide, puis, bras tendus, il poussa délicatement la trappe aménagée dans le plafond pour accéder sous le toit à un espace où il aurait été impossible de tenir debout. Il y avait là cinq générations de toiles d'araignée et de poussière de charbon accumulées. Il en retira avec précaution un sac dans lequel il enveloppait son trésor, un cahier à dessin de grand format que Louise avait troqué, avait-elle dit, mais contre quoi, mystère. Il alla s'installer dans son ottomane, tailla un crayon en prenant garde que les épluchures tombent toutes bien dans le papier qu'il serrait lui aussi dans le sac. Un secret est un secret. Il commença, comme toujours, par feuilleter les premières planches. Il trouvait de la satisfaction à mesurer le travail accompli, de l'encouragement. 12 planches déjà, des soldats, quelques femmes, un enfant, surtout des soldats, des blessés, des triomphants, des mourants, à genoux ou couchés, ici un bras tendu. Il était très fier de ce bras tendu, très réussi. S'il avait pu sourire, il se mit au travail. Une femme, cette fois, debout, un sein dénudé. Fallait-il dénuder le sein ? Non, il reprit son esquisse. Il couvrit le sein. Il retailla le crayon. Il aurait fallu une pointe fine, un autre papier avec moins de grains. Il était obligé de dessiner sur ses genoux parce que la table n'était pas à la bonne hauteur. Il aurait fallu un plan incliné. Toutes ces contrariétés étaient autant de bonnes nouvelles parce qu'elles voulaient dire qu'il avait envie de travailler. Il releva la tête, éloigna la feuille pour prendre du recul. C'était bien parti. La femme était debout, le drapé pas mal réussi. C'est le plus difficile, le drapé. Toute la signification se concentre là, le drapé et le regard. Voilà le secret. Dans ces instants-là, Édouard était presque de retour. S'il ne s'était pas trompé, il allait faire fortune, avant la fin de l'année. C'est Albert qui allait être surpris, et il ne sera pas le seul.